10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM le week-end entre 10h et 11h, le rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, qu'as-tu fait du chapeau de Taïsir ?
Je l'ai caché, imam Abdelali, et il est bien caché, donc maintenant, Philippe, bien malin, celui bien. Qui pourra le trouver.
Non, mais là, c'est pas sérieux du tout, parce que Taïsir, il va péter les plombs, là. Alors, Taïsir, c'est mon fils, voilà, et Philippe lui a volé son chapeau.
Et j'ai largement son âge. Je me suis mis, aujourd'hui, j'ai son âge, je joue avec lui.
C'est lamentable.
Voilà. Bon, vrai. Je lui ai pris son chapeau.
Là, il est dehors, en train de se s'arracher les cheveux. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le calmer.
Bien, imam Abdelali, comme c'est la tradition, nous allons démarrer cette émission avec un verbe coranique. Et quel est le verbe coranique que vous nous proposez aujourd'hui de découvrir?
Alors, le verbe que nous allons découvrir, c'est le verbe arabba. Arabba, qui signifie éduquer. Si on rajoute un T, un préfixe, c'est ça, hein, on rajoute le ta devant qui veut dire tarabba, c'est s'éduquer. Donc arabba, c'est éduquer autrui, et tarabba, c'est s'éduquer soi-même.
Donc soi-même, d'accord.
Donc bien sûr, en islam, chacun est invité à travailler cette éducation sur soi-même, donc un yatarabba. Et puis bien sûr, en tant que ra'i, en tant que berger d'un troupeau qu'il a autour de lui, soit en tant que gouverneur, soit en tant que parent, soit en tant que enseignant, soit en tant que quelqu'un qui a une autorité et une tutelle sur d'autres personnes, il a un devoir de tarbiya, d'éducation sur ces personnes-là. Donc bien sûr, cette éducation consiste à engager celui qui détient la tutelle d'un enfant à promouvoir sa bonne éducation. Donc c'est bien sûr orienter l'enfant ou le jeune de manière à développer son épanouissement physique, psychique, intellectuel et culturel. Donc voilà, c'est pour justement illustrer parfaitement, on peut aussi voir le côté étymologique de l'expression, puisque le radical étant tarbiya. Et le participe passé est murabba. Al-murabba. Al-murabba, quand on dit à quelqu'un donne-moi du murabba, c'est donne-moi de la confiture. Et alors que ça veut dire celui qui fait l'objet d'une éducation. Et donc ça montre bien que travailler le fruit, le transformer pour développer le sucre qui est en lui, le côté fructueux de ce qui est bon en lui, c'est tout simplement faire l'objet d'une éducation. Donc, il est bien approprié d'appeler de la confiture les fruits qui ont été cuits, qui ont été travaillés de manière à en faire ressortir.
Parce que vous êtes sérieux, c'est vraiment.
Oui. Ouais, c'est repris.
C'est
une autre définition, une autre utilisation du verbe rabba, le participe passé, ce qu'on appelle ism al-maf'oul, al-murabba, c'est al-ladhi ma'ni bit-tarbiya, celui qui est concerné par une éducation, et notamment transformer le fruit pour augmenter son goût fruité, son goût savoureux, son goût sucré. Tout simplement, c'est ce que l'on veut de nos enfants. On essaye de développer en eux leurs capacités de manière à ce qu'ils puissent s'émanciper au maximum de leurs moyens, de leur prédisposition, de leurs prérequis génétiques et biologiques, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un modèle commun à tous, où est-ce qu'il faudrait que tous les enfants soient des ingénieurs, que soient tous des médecins, ou soient tous des imams, ou soient tous des... Non, ce qu'il faut, c'est que tous soient des musulmans d'abord, puisqu'il s'agit d'éducation religieuse dans un premier temps, mais surtout exemplaire, c'est-à-dire doté d'un comportement exemplaire compatible avec, du moins comparable, et le plus proche possible de celle de notre modèle à tout musulman, qui est la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme le disait Umuna Aisha radiallahu ta'ala anha, que Dieu l'agrée, son comportement était un Coran incarné. Kana khuluquhu al-Qur'an, nous dit Aisha radiallahu anha. Et donc être un Coran incarné, c'est tout simplement s'imprégner de toutes les vertus, les valeurs universelles, mais qui sont divines, que sont bien sûr la justice, l'amour, la fraternité, la solidarité, la générosité, etc. etc.
Bien. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le mot éduquer, cette éducation, a une perspective particulière en islam ?
Bien sûr, elle a une perspective, elle a plusieurs cibles à atteindre dans la personne de la concernée, ce qu'on appelle al-murabba, ce fameux murabba qui est la confiture de la personne concernée, le participe passé concerné par cette éducation. Donc, il y a plusieurs, bien sûr, moyens. Donc, tout commence par le choix du conjoint, déjà. Parce que pour éduquer un enfant, il faut être deux. On dit en arabe, je suis une main toute seule, elle ne peut pas applaudir. Il faut deux mains pour applaudir, hein, n'est-ce pas? Quand tu veux applaudir, Philippe, il faut deux mains. Donc il faut un père et une mère. Un enfant a besoin de l'affection de sa mère, a besoin de l'autorité de sa mère, mais aussi il a besoin de la virilité de son père, que ce soit un garçon ou une fille. Hein, il a besoin de l'autorité de son père. Donc tout ça est complémentaire dans l'épanouissement psychologique de l'enfant. Donc choisir son partenaire pour justement éduquer ses enfants, c'est déjà une première manière d'éduquer ses enfants. Je commence et à l'éducation de mes enfants, déjà en choisissant mon partenaire. Je suis une femme, je choisis mon partenaire homme, mon mari, c'est-à-dire le père de mes enfants. Je suis un homme, je choisis la mère de mes enfants. Hein, il y a un poème qui est très connu, qui est très souvent répété quand on essaye de sensibiliser les hommes à bien choisir leur épouse, et donc la mère de ses enfants, dans lequel il est dit « Al-ummu madrasatun, idha a'adattaha, a'adatta sha'ban tayyib al-a'rak ». La mère est une école que si tu la prépares, que si tu la choisis correctement, tu auras construit toute une umma, toute une communauté avec pleine de bonnes traditions. Attention, ici, on dit bien araq avec un kef et non pas araq qui veut dire les racines. Araq, c'est les racines. Là, c'est araq qui veut dire les bonnes mœurs. L'araq, les mœurs. Donc, transmettre des bonnes mœurs en choisissant déjà la bonne mère qui va pouvoir transmettre ses bonnes mœurs à ses enfants est déjà une première mission quant à la manière d'éduquer ses enfants. Second élément, bien sûr, c'est le suivi perpétuel. Dès le plus bas âge, alors moi, on m'a souvent posé la question, quel est le pourcentage de responsabilité qui incombe au père quant à l'éducation de ses enfants et quel est le pourcentage de la femme. Quand je pose la question, on me dit 50-50. Il y en a qui me disent non, 60 pour la mère, 40 pour le père. Il y en a qui me disent non, c'est au moins 70 à 80% pour la mère et 20 à 30% seulement pour le père. Eh bien moi je réponds tout simplement que c'est évolutif. C'est-à-dire que dès la naissance, bien sûr l'enfant c'est 100% la mère. L'enfant, il est sur sa mère, il est sur la poitrine de sa mère. Le père, il joue aucun rôle secondaire. Il est là simplement pour assurer les besoins matériels.
Et encore que les papas d'aujourd'hui...
Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, la mère transmet à son mari, donc au père, des parts de responsabilité quant à l'éducation de son enfant. Donc le père commence à dialoguer avec son fils, commence à lui transmettre l'exemplarité par rapport à son comportement, par rapport à son langage, par rapport à sa manière de parler, par rapport à ses convictions, par rapport à ses relations qu'il a avec Dieu. Quand un enfant voit son père prier à la maison, eh bien l'enfant va s'asseoir et va se mettre à côté de son père pour lui aussi imiter son père et essayer de ressembler le plus à son père. Et ainsi de suite, au fur et à mesure des années qui passent, c'est le père qui prend et qui à qui on transmet de plus en plus la responsabilité de l'éducation de son fils en grande partie et à moindre mesure si c'est une fille bien sûr qui elle garde comme d'abord comme premier modèle sa mère. Bon, ça c'est effectivement facile quand nous avons une coparentalité, une coéducation exercée par un couple harmonieux, complice, qui a établi une certaine complémentarité et un suivi qui ne laisse aucune faille à l'enfant. Où est-ce qu'il va pouvoir se réfugier pour se détourner de sa voie? Par exemple, quand...
Mais là, vous vivez dans le monde des bisounours, si ma mère.
Alors moi, je parle...
Que là, vous avez des schémas un peu à l'ancienne.
C'est des schémas...
Un peu à l'ancienne.
C'est des schémas idéals. C'est le schéma
idéal. Parce que...
Idéal. Moi,
en 2018, ça se passe pas toujours comme ça.
Je parle d'abord de... Moi, je suis là pour présenter ce qui est idéal pour éduquer un enfant. Après, bien sûr, il y a des
variantes.
Familles monoparentales où vous avez beaucoup d'enfants
Qui divorces,
sont éduqués par la mère, qui sont éduqués par le père, qui sont éduqués par une belle-mère, qui sont éduqués parfois même par un oncle ou un grand-parent, et où les parents sont totalement absents, où l'un des deux parents est absent. Vous avez même des couples qui sont mariés, mais le père, il est jamais là, où la mère, parfois, elle aussi, est extrêmement négligente, où... Il est là, mais il montre un très mauvais exemple à ses enfants dans son comportement, dans son langage. Par exemple, il a un langage vulgaire, il a l'habitude de mentir et apprendre à ses enfants à mentir, etc., etc. Donc, il transmet de très mauvaises mœurs, des vices beaucoup de vices à ses enfants. Et ça, bien sûr, c'est malheureux. Et il faut rappeler, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème aujourd'hui, que voilà, il faut pas prendre les choses à la légère. Un enfant, c'est pas simplement une source de bonheur, de câlins, de bisous, de voilà, il est mignon. Non, c'est aussi de lourdes responsabilités.
Alors le troisième,
on en a plusieurs.
Le troisième devoir d'éducation en islam, Imam Abdelali.
Eh bien, c'est aussi surveiller ses relations. Mmh. Un enfant, il vit dans un environnement où ce qu'il n'est pas seul. Bien sûr, il a des camarades de classe, il a des copains dans la rue, il a des relations sur le net. Il a surtout aujourd'hui, c'est nouveau maintenant, c'est le net. Hein, donc, il a toute cette relation virtuelle qui est encore même plus grande que la relation, ses relations réelles, qui sont aujourd'hui sur son smartphone, qui sont sur l'ordinateur. Et donc, là aussi, il faut surveiller les relations et les chats et toutes les discussions qu'il peut avoir sans l'étouffer, sans l'écraser, sans être constamment au-dessus de sa tête pour... Il faut lui faire confiance. Il faut le laisser s'épanouir et s'émanciper. Il ne s'agit pas d'être constamment au-dessus de sa tête, mais simplement lui transmettre un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire la pudeur de Dieu, de dire que si moi je ne te vois pas, ton père... Si moi je te vois pas, ta mère, eh bien sache que Dieu lui te voit. Lui, il sait ce que tu écris, il sait ce que tu regardes sur Internet, il sait avec qui tu es sur Internet. Donc, lui transmettre la crainte d'Allah Azza wa Jal, lui transmettre la pudeur, al-haya min Allah, an yastahiya min Allah. Idha kana la yastahi min ummihi wa abihi, s'il n'a pas la pudeur envers ses parents, eh bien qu'il est au moins envers Dieu, parce qu'au moins là, Dieu, il est tout le temps avec lui. Il est avec vous que vous soyez. Donc transmettre ça à son enfant, c'est la meilleure manière de bien l'éduquer, car à ce moment-là même, votre absence n'a pas de conséquences, puisqu'il il sait que malgré tout, Dieu est là au-dessus de lui et il le voit. Et il sait ce qu'il fait. Donc cette éducation spirituelle est fondamentale dans le cheminement éducatif que l'on a avec son enfant. C'est cette éducation spirituelle qui lui permet ce qu'on appelle en arabe istahdar al-maulah, hein, le fait de faire acte de présence de son créateur, de manière à avoir la honte, avoir la pudeur nécessaire qui lui permette d'avoir cette réserve, cette retenue, de ne pas commettre des actes répréhensibles, des actes détestables, et être ce qu'on appelle un musulman exemplaire, tout simplement. Comme le voudrait Dieu, comme le voudraient ses parents, et comme nous l'a enseigné notre prophète bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ensuite, tu as, bien sûr, surveillé son langage. Le langage de l'enfant, c'est fondamental. Déjà, lui apprendre à bien parler. Je trouve ça lamentable qu'aujourd'hui, des parents parlent à leur enfant avec un français qui est faux, avec des formules et des phrases qui sont... non, il faut parler et articuler correctement avec ses enfants. Il faut parler... Quand vous parlez en arabe, parlez bien l'arabe. Quand vous parlez français, parlez bien français. Quand vous parlez kabyle, quelle que soit la langue, parlez-lui une bonne langue. Quelle que soit la langue, mais faites les choses correctement. Inna Allah yuhibbu al-mar'a idha 'amila 'amalan an yutqinahu. Dieu aime la perfection dans les actes que nous faisons.
Les parents de la première génération qui parlaient pas un mot de français ou qui parlaient un français bancal, ils ont fait des générations d'enfants qui parlent un français nickel. Hein.
Nickel, grâce à l'école. C'est grâce à l'école. Et combien d'entre eux ont été handicapés dès leur plus beurs âges parce qu'ils rentraient à l'école déjà avec un français déjà qui n'était pas qui était totalement très très on va dire faible dans leur bouche. Donc là-dessus, c'est dommage que l'enfant rentre à l'école en CP déjà avec un handicap. Donc il faut contribuer dès le bas âge à donc essayer de enseigner à son enfant déjà un langage le plus riche déjà. Il faut lui inculquer un maximum de vocabulaire, avoir une richesse vocabulaire et une expression orale qui soit la plus parfaite et la plus éloquente.
Pas de dérapage alors.
Voilà, ça c'est là-dessus, ça c'est un premier point, mais aussi sur les propos. Hein, il ne faut pas enseigner à son fils à être insultant, à être moqueur, à être menteur, à être calomnieux, à pratiquer la médisance. Donc tout ça, on corrige ses enfants. Quand quand ton fils vient te raconter ses ragotages, ouais, celle-là, tu l'as vue, nanani, on lui apprend à dire non, c'est pas bien. Ça s'appelle de la médisance. Al-riba. Al-riba tu ashaddu min az-zina, nous dit le prophète. Al-riba tu dhikruka akhaka bima yakra. La médisance, c'est de parler du mal de ton frère derrière son dos. Et c'est un grand péché, et c'est un acte détestable. Tout cela doit être transmis à nos enfants. Et enfin, construire la relation avec Dieu. Donc relation, d'abord lui enseigner le dogme, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le rapport entre Dieu et la création. mais aussi les autres dogmes, c'est-à-dire la relation qu'ont les chrétiens avec Dieu, qu'ont les juifs avec Dieu, les hindouistes, pourquoi pas même, de manière à ce qu'il relativise, qu'il sache où est-ce qu'il est, lui, dans tout ça. Il est musulman, mais voilà ce qu'il y a autour de lui, qu'est-ce que les gens pensent autour de lui. De manière à être immunisé, de savoir, quand il a pris parti pour l'islam, il a fait son choix. Mais bien sûr, si demain il fait un autre choix, eh bien, il faut accepter. Il ne faut pas se dire non, moi je ne suis pas d'accord, se rebeller, on verra, je crois.
On en parlera tout à l'heure, voilà, puisque nous avons un cas concret. On termine avec le sixième point, Imam Odeh Ali.
Eh bien, s'assurer de la réussite aussi scolaire et son instruction, qu'il ait une culture générale riche. Ton fils, il doit grandir avec un maximum de connaissances. C'est bien aussi que son fils il soit un homme qui a une très grande moralité, mais si c'est un ignare, eh bien, dans la rue, il ne sera pas respecté. C'est la science et le savoir, la connaissance qui impose le respect. Donc, il est important d'avoir une connaissance, d'avoir une culture générale riche. Donc, il faut inciter ses enfants à lire et à s'instruire et à s'interroger sur tout et n'importe quoi, dans tous les domaines. Il ne s'agit pas de faire de nos enfants que des savants en Coran et en tradition prophétique et en islam et en dogme. C'est bien là d'étudier les sciences sacrées, mais les sciences profanes aussi sont très importantes pour son émancipation et son développement personnel dans sa vie.
Le verbe « rabba » avec l'imam Abdelali aujourd'hui.
Alors c'est avec une accentuation. « Rabba ».«
Rabba ».
Dont j'avais dit la confiture, c'est...
C'est bon.
Non, « murabba ». ».«
Murabba ». Mais c'est bon aussi.
C'est bon.
Bah, attendez,
c'est
vous
fraise ou abricot, Philippe Toité?
Oui, moi, figue, c'est bien.
Figue, ah, figue, ah, c'est vrai, moi aussi j'aime bien.
C'est magnifique.
C'est pas mal.
Bien, vous nous présentez dans un instant un personnage insolite, et je suis comme tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas qui c'est, je sais simplement d'elle que c'est la fileuse de laine au sac rouge.
Ouh là là, fileuse de laine.
Bah, j'en sais pas plus.
D'accord.
J'ai cherché partout.
Mais elle faisait du commerce avec Dieu.
Oui, mais je cherchais partout.
Inch'Allah, on va voir.
Ça reste un mystère, vous nous la présentez dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant.
Dans un instant.
Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent, comme tous les week-ends sur Beurre FM, Imam Abdelali Ali. Chaque semaine, vous nous présentez un personnage. Aujourd'hui, on sait que c'est une femme. Et que c'est une femme, alors je vous donne un indice. Donc, c'est ce qu'on appelait la fileuse de laine au sac rouge qui faisait du commerce avec Dieu. De qui s'agit-il?
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui vivait à l'époque du prophète David. Donc, c'est important de...
Prophète Daoud.
Daoud en arabe, David en langue universelle, ou hébreu. C'est un prophète, il faut savoir, qui a toute sa place en islam. Il ne faut pas dire que c'est un prophète juif. Non, c'est un prophète juif. Certes, il est juif, puisqu'il était descendant du peuple d'Israël. C'est un roi, c'est même le roi juif par excellence. L'étoile de David porte bien son nom. Mais bon, bien sûr, elle a toute sa place en islam. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ce prophète-là reçoit la visite d'une femme qui lui dit « Ya Nabi Allah, ô envoyé de Dieu, ou prophète de Dieu, Rabbuka zalimun am adil, est-ce que ton Seigneur est-il injuste ou est-il au contraire un Dieu juste ?» Et là, le prophète lui dit « Waihaki amra'a, wa huwa al-adl alladhi » Donc c'est le Seigneur qui est juste et qui jamais n'a commis d'injustice. Alors là, elle lui dit, voilà, moi je suis une femme veuve et j'ai des enfants à charge et je n'ai pas de mari pour travailler pour moi. Et mes enfants aujourd'hui ont faim. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais fait les causes pour gagner ma vie, en l'occurrence en filant la laine et en fabriquant du fil avec de la laine. Après avoir fabriqué tout un ensemble de pelotes de laine, j'ai pris ces pelotes de laine et je suis parti au marché pour aller les vendre. Mais sur le chemin, un oiseau est venu et a arraché mon sac rouge dans lequel j'avais posé mes pelotes de laine. Mes pelotes que j'avais fabriquées avec la sueur de mon front pour nourrir mes enfants. Et donc cet oiseau-là qui a été envoyé par Dieu pour me voler mes pelotes de laine, eh bien me fait penser que Dieu est injuste parce que j'ai quand même travaillé avec la sueur de mon front et je trouve injuste ce Dieu qui m'enlève mes pelotes de laine et qui m'enlève les moyens de nourrir mes enfants qui sont dans le besoin. Et au même moment où elle dit ça, on toque à la porte du palais du roi David. Et trois hommes rentrent, avec chacun dans ses mains un sac, chacun avec 100 pièces d'or dedans. Et le prophète Daoud interrompt la conversation avec cette femme et lui dit « Que voulez-vous ? » Il a dit « Nous sommes venus faire don de ces 3 sacs d'or pour les pauvres. » Et là, Daoud leur dit « Mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce jour-là pour donner 3 sacs d'or chacun d'entre vous ?» Et là, ils ont dit « Voilà, nous sommes des pêcheurs. » Et on parlait tout à l'heure hors antenne de l'islam en mer et de ces pêcheurs qui vivent leur islamité en mer, eh bien, et qui avons été fait l'objet d'anomalies, de, on va dire, de, comment on appelle ça là, de dégâts dans la coque de notre bateau, et nous allions périr. Et au même moment, un oiseau nous a envoyé un sac rouge dans lequel se trouvait des pelotes de laine. Et grâce à ces pelotes de laine, nous avons réussi à rafistoler et à, on va dire, réparer même, on va dire, avec les moyens du bord, notre coque du bateau. Et nous avons réussi à nous en sortir et à ne pas mourir en mer et ne pas mourir noyé en mer. Et c'est grâce à cet oiseau qui nous a envoyé ces pelotes de laine que nous avons réussi à sauver. Et donc, pour remercier Dieu, nous avons décidé de faire une aumône chacun de 100 dinars et la donner aux pauvres. Et là, Daoud regarde cette femme et lui dit, tu as vu, servante de Dieu, Dieu, il commerce avec ses serviteurs sur terre comme sur mer. Dieu, il commerce, il pratique le commerce avec ses serviteurs en mer comme sur terre.
Oui.
Donc, et il lui dit, prends les pièces d'or, elles sont à toi. Elles ne peuvent être qu'à toi, puisque ce sont tes pelotes de laine qui ont sauvé ces marins et ces pêcheurs de la noyade. Donc, cette femme-là va comprendre que, effectivement, Dieu est sage et que, finalement, elle est à 100% gagnante parce qu'elle n'aura jamais pu vendre ses pelotes de laine pour 300 pièces d'or. Ça n'aurait jamais été le prix. Mais quand Allah décide, dans sa grande générosité, de montrer sa miséricorde, eh bien, il le montre de la façon la plus noble et la plus extraordinaire. Voilà l'histoire de cette femme. Qui...
Alors, elle n'a pas de nom.
Alors, non, effectivement...
Non, on ne sait pas comment il s'appelle. En fait.
On a du mal à... Moi-même, j'ai essayé de chercher...
On la retrouve où, cette histoire, Imam Abdelali?
Elle est un peu partout. Alors, c'est surtout dans des ouvrages qu'on appelle des Israéliates, ce qu'on appelle des livres du peuple d'Israël, des ouvrages d'histoire ancestrales qui ont été écrits bien avant l'avènement de l'islam et qui ont été repris et approuvés par la Oumma, par les savants de la Oumma Islamia. Bien sûr, ce n'est pas le prophète qui relate cette histoire. C'est ce qu'on appelle « min qasas al-israiliyat » qui sont tout à fait honorables et qui peuvent faire l'objet de leçons et de morale pour chacun d'entre nous. Quelle est la leçon de cette histoire? C'est de s'en remettre à Dieu, de ne jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal, il nous voit et qu'aucune injustice ne passe, qu'à chaque fois, il y a derrière chaque malheur, chaque difficulté, il y a une facilité. Inna ma'al usri yusra. Voilà ce que raconte cette belle histoire de cette tisseuse de laine qui a traversé l'histoire et nous est parvenue avec toute sa beauté.
Bien, la semaine prochaine, un autre personnage. Une question qui concerne l'héritage, Imam Abdelali. Comment concilier l'héritage selon les préceptes de l'islam avec les lois françaises de partage?
Ben écoute, c'est vrai que c'est compliqué. Beaucoup de musulmans se retrouvent confrontés à ce genre de situation. J'ai même, moi, fait l'objet d'énormément de questions de comment concilier quand on va chez le notaire et que, par exemple...
Le notaire, lui, il applique la loi française.
Le notaire, par exemple, déshérite l'épouse, donc la mère des enfants. Puisqu'en France, la mère n'a pas le lien de sang qui lui permet d'hériter de son mari. Donc, elle n'est pas héritière de son mari, mais elle a un droit d'usufruit sur le bien immobilier que possède son mari jusqu'à sa mort. Donc ça, en islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'utilisation d'usufruit du bien à la mort du conjoint, normalement. Mais par contre, la mère, l'épouse, c'est-à-dire du mari, a le droit à une part d'héritage. Elle a le droit à 1/8 quand il y a des enfants. Elle a le droit à 1/4 quand il n'y a pas d'enfants. Donc tout ça, c'est totalement incompatible avec les lois françaises. Et quand on va chez le notaire, c'est compliqué. Donc effectivement, en tant que citoyen, on se doit de respecter la loi française, certes, on respecte la loi française, mais on est invité, parce que Allah Azza wa Jal, dans la sourate Les Femmes, nous a défini la manière de procéder à ce partage de l'héritage conformément à la volonté de Dieu, et donc que une personne de confession musulmane qui se dit adepte du prophète Mohammed sallam et croyant en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallam, en l'occurrence le Coran, doit se plier à la volonté divine établie dans le Coran, que l'épouse a droit à un huitième et ne peut pas profiter du usufruit, que anna li dhakari mithlu hadhi al-unthayayn, que les hommes ont droit à deux parts par rapport, les frères du moins, ou les fils ont droit à deux parts par rapport à leur sœur, donc, etc., etc. Et donc, à partir de là, c'est très difficile. Donc, moi, je rappelle aux gens que, certes, le notaire vous aura accordé une part qui ne vous est peut-être pas due, eh bien, c'est tout simplement de votre devoir de corriger ce qui n'a pas été fait par le notaire et de vous plier, de faire en sorte que vous soyez en conformité avec les versets qui parlent d'héritage et qui sont révélés dans la sourate 4, sourate An-Nisa, et qui parlent d'héritage. Et donc moi j'ai reçu par exemple récemment un appel téléphonique d'une personne qui me parlait de son beau-père, donc son mari qui est décédé, cette femme-là, ses beaux-parents sont venus réclamer une part d'héritage. Mais sauf que dans la loi française, elle n'hérite pas. Les parents n'héritent pas. Et n'ont pas le droit à l'héritage, puisque cet homme qui est mort avait des enfants. Donc il avait des enfants, ce sont les enfants qui héritent de tout, les parents n'ont droit à rien. Alors que dans le Coran, Dieu accorde aux parents une part d'héritage, notamment un tiers. Donc un sixième pour la mère, un sixième pour le père. C'est-à-dire si un enfant meurt et il a de l'argent, il possède des biens, et que ses parents sont vivants, eh bien ses parents ont le droit, le père un sixième et la mère un sixième, ce qui fait à eux deux un tiers. Avant de redistribuer l'argent, le reste, le reliquat, aux enfants. Et donc elle venait, elle me dit, voilà, moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois redistribuer à mes beaux-parents alors que le notaire, il n'aura rien donné? Le notaire, il a dit, non, il n'y a pas d'héritage pour les parents alors qu'il a des enfants. Tu vois? Donc je lui ai dit, il faut craindre Allah et restituer à ses parents qui ont quand même un droit, puisque c'est quand même eux qui l'ont donné la vie, qui l'ont éduqué, qui ont vous n'avez fait que profiter de votre mari, alors que eux, les parents, ont subi toute l'éducation, toutes les contraintes de donner la vie et de donner l'éducation adéquate à leur fils. Donc il est normal qu'ils aient droit à une part de l'héritage de leur fils. Et donc effectivement cette femme-là s'est engagée à reverser un tiers de la totalité de ce que possédait son mari à ses beaux-parents, donc aux parents du défunt. Voilà, bien sûr, les beaux-parents.
Alors après, c'est une question de conscience. Hein.
Tout à fait, c'est une question de conscience. Mais il faut savoir que, moi je les rappelle que si vous ne donnez pas, vous êtes des voleurs. Hein, aux yeux de Dieu, vous êtes un voleur. Si vous accaparez tout l'héritage pour vos enfants et pour vous, et que vous laissez les parents, par exemple, sans héritage, sans droit d'héritage, c'est comme si vous aviez spolié, c'est comme si que les enfants avaient spolié leurs grands-parents. Puisque les parents du défunt ont droit à leur tiers. Vous ne pouvez pas leur priver
de cela. Avec les questions d'héritage, Imam Abdelali, ça révèle la vraie personnalité des gens. Il y a des familles qui se détruisent, qui se déchirent.
C'est effroyable.
C'est des catastrophes.
Parce que là, ce que je te dis, c'est simplifié. Ouais. Mais l'histoire qu'elle m'a racontée, la dame,
derrière, c'est
est extrêmement plus complexe que cela. Peut-être que je la raconterai en antenne.
Si on a un jour, faut raconter à tout le monde, parce que je pense que de toute façon, aujourd'hui, on voit la vraie personnalité des gens quand il y a des histoires d'argent.
Ouais, c'est dingue. En tout cas,
ça révèle le meilleur et le pire de l'individu.
En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, le plus de problèmes qu'il y a, c'est que c'est souvent des biens qu'il y a au bled. Et comme là-bas, le droit d'héritage est extrêmement mal appliqué, les gens font l'objet d'énormément d'injustices, et notamment sur les femmes. Vous avez les sœurs, non seulement elles n'ont pas le droit à la moitié de la part du frère, mais elles n'ont droit tout simplement à rien du tout. On donne rarement aux sœurs. Elle dit non, la sœur, elle est mariée avec un étranger, elle a été vendue à une autre famille, elle n'a le droit à rien du tout de son père ou de sa mère. Alors que c'est faux. Non, la fille a le droit d'hériter de son père. Ça, c'est...
On consacrera une émission à l'héritage, Imam Abdelali, si vous le voulez bien. Damien Garcia vous a écrit, Imam Abdelali, il avait besoin de vous, il avait une question à vous poser. Vous lui avez proposé de témoigner aujourd'hui. Il sera là dans un instant et il attend vos conseils. Damien Garcia sera donc avec nous dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant.
Dans un instant.
10h, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mamoun et l'imam Abdelali, je vous propose d'écouter aujourd'hui le témoignage de Damien. Bienvenue Damien.
Bonjour. Bonjour à tous.
Voilà, vous avez souhaité partager votre histoire et avoir l'avis de l'imam Abdelali sur vos relations avec votre mère. Alors,
oui, voilà.
Damien.
Donc je vis avec ma mère depuis toujours, j'ai 26 ans.
Oui.
Donc ma mère est musulmane pratiquante et moi je suis je ne pratique aucune religion, donc on peut dire que je suis athée.
Vous êtes issu d'un mariage mixte?
Pas de mariage, mais oui, un concubinage. Mon père est, est chrétien, malgache.
D'accord.
Donc voilà. Et donc voilà, on a pas mal de problèmes au quotidien avec ma mère, puisqu'on ne s'entend pas du tout là-dessus. Elle aimerait bien que je pratique la religion musulmane, et c'est vrai que moi, c'est pas trop mon... Ce n'est pas trop mon... Comment dire?
Dites les choses clairement. Que vous n'êtes pas musulman. Et donc, voilà. En tant que non-musulman, vous trouvez illogique de pratiquer l'islam alors que vous n'y adhérez pas. Vous n'adhérez pas à l'islam, donc vous n'avez pas... Vous n'avez
pas... C'est ce que j'essaie de faire comprendre à ma mère.
Ouais, bien
de mal. Et bon, voilà, elle aimerait bien... Enfin, bon, maintenant, elle aimerait bien que je me marie avec une femme musulmane. Elle aimerait bien que j'aille à la mosquée.
Ouais, que vous soyez pratiquant musulman. Que vous soyez d'abord converti à l'islam. Que vous soyez un croyant. Voilà. On est d'accord.
Exactement.
OK.
Voilà, durant mon enfance, elle voulait pas que je mange de porc. Donc, je vous explique, quand j'étais petit, j'étais en garde alternée. Donc le week-end je vivais chez mon père et la semaine j'étais chez ma mère. Donc chez ma mère je ne mangeais pas de porc, ça posait aucun problème. Mais chez mon père j'en mangeais.
Mmh.
Donc voilà.
Et donc elle vous reprochait d'avoir mangé du porc chez votre père?
Bah elle me reprochait pas, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de conflits avec mon père et ma mère par rapport à ces choses-là. Par exemple, quand je revenais la semaine chez ma mère, elle me disait, bah, pourquoi tu dis pas à ton papa que tu veux pas manger de porc alors que j'avais 10 ans. Donc, on comprend pas trop ces choses-là à cet âge-là. Et...
Mmh. D'accord.
Donc, voilà, je voulais aussi un petit peu vos conseils pour essayer d'améliorer ma vie au quotidien avec ma mère, puisque je respecte sa spiritualité, je respecte
ses convictions.
Religion. Mmh. Donc, mais il faudrait qu'elle respecte aussi le fait que moi, je ne veux pas pratiquer la religion. Je pense que c'est quelque chose aussi de personnel, qu'il ne faut pas l'imposer. Après, c'est mon avis. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
D'accord. Alors, il est clair que dans multiples versets du Coran, votre mère est en infraction avec ce que Dieu attend d'elle.
D'accord.
Puisque Dieu, dans le Coran, il s'adresse même à son prophète, il lui dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Et un verset
d'accord.
clair qui est connu de tous, hein, non contrainte en religion. Hein, la ikraha fi din. Dans un autre verset, Dieu va même reprocher et réprimander son prophète. Oh, c'est pas vraiment une réprimande, mais on va dire c'est une interrogation de remontrance dans lequel Dieu dit à son prophète afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, est-ce toi qui va contraindre les gens afin qu'ils deviennent des croyants? Et ensuite il dit tu ne guideras pas qui tu aimes, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha.
Parce que je me tue à dire à
voilà.
ma mère depuis des années.
Par contre votre mère ce qu'elle a fait
alors moi j'aimerais me placer du point de vue de la mère Imam Abdelali, qui souvent les mères elles pensent que pour avoir réussi l'éducation de leur enfant, c'est justement qu'ils épousent leur foi.
Oui, donc je dis bien qu'il est du devoir de chaque parent d'éduquer, parent bien sûr de confession musulmane, comme le ferait un bouddhiste, un hindouiste ou un chrétien, d'éduquer ses enfants selon les convictions de ses parents. Hein, le prophète lui-même le dit dans une parole, tout enfant naît dans la fitra, dans cette foi innée, et ce sont ses parents qui font de lui un chrétien, un juif, un mazdéen, ce sont donc les parents qui orientent l'enfant dans ses convictions religieuses. Sauf que là, dans ce cas que vous que l'on a actuellement avec Damien, c'est que lui a choisi de sa propre orientation, de son propre choix, de ne pas être musulman. Autant l'islam condamne la contrainte qu'a subi Mus'ab ibn Umair, un compagnon du prophète, que sa mère voulait à tout prix garder comme polythéiste, un mouchrik, autant de la même manière, l'islam condamne une mère ou un père qui voudrait contraindre son fils à devenir un musulman monothéiste. C'est tout autant détestable. Je dis bien que la question de la conviction relève de quelque chose d'intime et de personnel. Mais il n'empêche que, si on revient dans le passé, que votre mère est tentée de vous éduquer, de vous inculquer la foi musulmane, c'est tout à son honneur. Elle est musulmane, il est normal qu'elle fasse ce travail.
Éduquée dans les valeurs musulmanes, dans la générosité.
Eh bien, c'est très bien. Oui, donc les valeurs, c'est autre chose. On ne parle pas de valeurs, on parle de croyances. On parle, il y a les valeurs, certes, et il y a les croyances. Donc, elle a réussi effectivement à vous transmettre des valeurs, mais elle n'a pas réussi à vous convaincre des croyances et des convictions. Eh bien, je l'invite, et si elle m'écoute, je lui dis stop, vous arrêtez. Vous arrêtez, madame. Écoutez bien la maman de Damien. Vous n'avez pas le droit de contraindre votre fille et de votre fils ou de lui faire des pressions pour qu'il devienne croyant. Hein, Dieu n'attend pas ça de vous. Hein, Dieu lui-même le rappelle à son prophète. Il lui dit « وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ » Nous n'avons de devoir que d'informer, de transmettre l'information sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est son prophète, sur ce que Dieu a révélé à son prophète. Et c'est tout. Il n'a jamais été question de forcer, de contraindre, ni par l'argent. Même Omar Khattab, à l'époque, avait fait ce qu'on appelle une donation à un chrétien pour essayer de le convaincre de se convertir à l'islam. Eh bien, il s'en est mordu les doigts, il l'a regretté, il a même demandé à retrouver ce chrétien-là pour lui dire que ce n'est en aucun cas pour le tenter de se convertir à l'islam qu'il lui a fait ce don ou ce cadeau. Donc même il n'est pas question de forcer, de contraindre, de faire des pressions sur quiconque pour convertir quelqu'un à l'islam, de la même manière que nous n'apprécions pas que des musulmans subissent des pressions pour quitter leur religion. Donc il faut accepter la réciprocité. De la même manière que nous sommes contre ce qui se passe en Birmanie, on massacre des gens parce qu'ils sont musulmans, ou en Chine parce que des Ouïghours sont de confession musulmane, ou en Centrafrique, on va carrément bouffer leur chair parce qu'ils sont de confession musulmane, nous détestons cette attitude-là et cette répression, de la même manière que nous condamnons que des musulmans pratiquent cette répression contre des gens qui ont choisi de ne pas l'être. Voilà, chacun sa religion. La aboudouma ta'aboudoun, la koum din ou koum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Et Dieu dans le Coran dit فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. S'ils se détournent, dis-leur que nous sommes croyants et puis c'est tout. Nous sommes croyants, toi tu as choisi de ne pas l'être, c'est ton choix. Et il faut le respecter. Et il faut que la maman de Damien se comporte aussi noblement que si son fils était aujourd'hui musulman. Mais rien ne l'empêche de faire des prières, des invocations, d'implorer Dieu dans ses prosternations pour que Allah guide son fils, pourquoi pas. Mais en aucun cas, il est question de contraindre, de forcer, d'utiliser des moyens matériaux, psychologiques, quels que soient les moyens, pour forcer et contraindre quiconque à se convertir à l'islam. De la même manière que nous, on déteste être contraint à quitter notre religion ou à suivre une autre religion. Chacun doit être libre de choisir ce qu'il veut comme conviction. Ça, c'est la foi musulmane. Bon, après, c'est une valeur divine, c'est une valeur islamique.
Forcer, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'elle a essayé de m'inciter tout au long de ma vie à me diriger vers la...
Dans ton enfance, c'est normal. Il y a une éducation, c'est normal. Quand tu es mineur, c'est normal. Hein, tout parent éduque ses enfants selon ses convictions. Ça, c'est tout à fait normal. Hein,
elle était dans son rôle, quoi.
Elle était dans son rôle. En tant que... Maintenant que vous êtes adulte, eh bien, non. Elle ne peut pas utiliser son statut de mère pour vous forcer.
C'est pour avoir un peu votre avis. Je pensais avoir.
En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez être tranquille, c'est très simple. Oui. Eh ben, prenez un appart. allez vous installer. Allez voler de vos propres ailes. Au lieu de rester à la maison chez
C'est Stéphane
papa.
Plaza qui vous parle, hein, c'est pas l'imam Abdelali.
Mais si vous pouvez, si vous en avez les moyens, faites-le. Et bien sûr, continuez à rendre visite à votre mère, et puis c'est tout. Hein.
Mais il n'en a pas les moyens, évidemment, c'est ça.
Ah ben, voilà. En attendant qu'il n'a pas les moyens, moi j'invite la maman à ne pas profiter de la faiblesse de son fils pour essayer de le contraindre et le forcer à devenir musulman. Ça, c'est inadmissible.
On a des conflits, mais dans le fond, on s'aime terriblement.
C'est normal, c'est normal. Une mère et son fils sont toujours. Il y a une relation. Donc on a ce qu'on appelle la fibre maternelle qui est énorme.
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Donc je te souhaite bon courage, Damien. Plein de bonnes choses.
Merci.
Et plein de bonheur dans ta vie et que les relations avec ta mère se calment et s'apaisent. C'est ce qu'on peut te souhaiter. Et je dis à cette mère-là, vous n'avez pas rien à vous reprocher aux yeux d'Allah. C'est Dieu qui guide qui il veut. Vous avez fait votre rôle, vous avez joué votre rôle de musulmane, de mère, et bien ça s'arrête là. Donc je l'invite à ne plus continuer à vous faire pression.
Merci Damien de votre témoignage. Merci beaucoup. Alors on a malheureusement plus le temps de prendre d'auditeurs. Hein. Vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali. Maintenant, si vous avez des questions à lui poser, puis notamment des questions d'ordre privé, hein, vous pouvez l'appeler directement sur son téléphone portable.
Oui, je suis joignable en ce moment, effectivement. Donc le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Je vais le répéter encore une fois parce qu'il y a mon fils qui faisait du bruit là. Bon, je rappelle que aussi j'organise une Omra au mois de février, donc du 19 février au 3 mars. Ceux qui veulent participer.
C'est pour les vacances d'hiver.
Les vacances d'hiver, en pleine vacances d'hiver pour la zone C. Effectivement, la zone parisienne, mais bon, je pense qu'ailleurs aussi, il y aura une part de pendant les vacances. Donc, n'hésitez pas, hein, ceux qui veulent venir avec moi, les Toulousains, les Grenoblois, même les gens de province, etc., ou les Parisiens, bien sûr, et en Ile-de-France, ceux qui veulent aller faire passer un bon moment spirituel, un moment d'enrichissement culturel, et passer un bon moment où est-ce qu'ils vont pouvoir se ressourcer, pourquoi pas obtenir de Dieu l'aide face à une impasse qu'ils ont dans leur vie et combien de situations ont été débloquées grâce effectivement aux invocations que ces personnes-là ont pu faire devant la Kaaba, devant des endroits qui sont bénis, qui sont sacrés et qui font l'objet d'exaucer nos prières, qui contribuent à exaucer nos prières. Et la Kaaba est tout à fait à l'ordre du jour. Ou bien par exemple ce qu'on appelle Ar-Rawda Sharifa. Ar-Rawda Sharifa, Philippe, c'est le jardin du paradis sur terre. Il y en a un, et Philippe, ça y est, où il est où? Il est entre le mimbar du prophète et entre sa tombe et entre la maison où est-ce qu'il habitait, qui est devenu sa tombe plus tard, après sa mort. Hein, le prophète a dit « Bayna bayti wa mimbari rawdatum riyad al-jannah ». C'est un endroit où les prières sont exaucées. Donc celui qui veut, qui a quelque chose d'intime et de fort à demander à Dieu, eh bien, il lui faut simplement se déplacer, venir là-bas et implorer Allah Azza wa Jalla dans ces lieux sacrés, dans ces lieux
donc
pleins de spiritualité.
Donc départ le 19 février.
Voilà, donc le numéro, le 06 29 25 35 00. Pour ceux qui ont perdu un membre de leur famille, ils peuvent faire une sadaqa aussi, de faire une umrah, hein, accorder une umrah qui va absoudre tous les péchés d'une personne décédée. Par délégation, on a des étudiants à Médine, hein, qui pratiquent des umrahs par délégation, c'est-à-dire par procuration d'une personne défunte. Eh bien, ça aide ces jeunes-là à financer leurs études et en même temps, ça permet d'obtenir une très grande sadaqa pour la personne décédée. C'est un double ou triple bénéfice puisque en même temps vous contribuez à aider des jeunes étudiants à devenir des futurs imams, des futurs donc plutôt ce sont des étudiants à l'université islamique de Médine que vous aidez. Donc ceux qui veulent faire une sadaqa pour une personne décédée ou une personne malade qui peut pas voyager, eh bien vous pouvez m'appeler donc au 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00. Voilà.
On vous retrouve samedi prochain, Imam Abdelali Mamoun. Et dans un instant, c'est Maître Serhan qui est avec vous pour C'est tout droit.
C'était l'Islam au présent. Avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.